Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir tout le monde. Il est agréable de vous rencontrer de nouveau dans l'émission quotidienne en français de la Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Nous souhaitons que vous restiez toujours en bonne santé et toujours le temps d'écouter nos programmes. Pour ce soir, l'émission sera commencée par le journal, suivi de commentaires, l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. L'ASEAN devrait formuler les directives pour des affaires et des droits de l'homme. L'Indonésie a demandé à l'OCI à créer la confiance dans le Moyen-Orient. Le gouverneur de Nusa Tenggara Oriental a averti le Timor Oriental de ne pas annexer les régions de l'Indonésie. La valeur des exportations de l'Indonésie à la Suisse atteint 1 milliard de dollars, a augmenté près de 1000%. Le gouvernement provincial de Java West présentera le potentiel de PME aux investisseurs de la Belgique. Et enfin, l'ambassade de l'Indonésie et le ministère du Tourisme ont promu de l'investissement touristique à Madrid. Voici le journal complet. La question de la protection des droits de l'homme devient la mise au point dans les pratiques commerciales mondiales. Depuis la mise en œuvre de la communauté économique de l'ASEAN, CEA, l'ASEAN doit formuler immédiatement des règles efficaces pour la protection des droits de l'homme liés aux affaires. C'est ce qu'a affirmé le représentant indonésien de la Commission intergouvernementale de l'ASEAN des droits de l'homme, CIADH, pour la période 2009-2015, Ravendi Jamin, dans le séminaire national sur les progrès de la réalisation des principes directeurs de l'ONU sur les affaires et les droits de l'homme en Indonésie. Ravendi a confirmé à Jakarta que cela devrait être fait parce que ce ne sont pas tous les pays membres de l'ASEAN ont un plan d'action national pour les affaires et les droits de l'homme.
Saya perlu segera memformulasikan guideline bisnis dan HAM terkait dengan pelaksanaan MIA.
L'ASEAN doit formuler immédiatement des lignes directrices des affaires et des droits de l'homme liées à la mise en œuvre de la CEA ou la communauté économique de l'ASEAN. Parce que quoi? Lié à la circulation des biens et des services. Deuxièmement, l'absence de RAN ou plan d'action national dans l'État membre en Asie. Pas tous les 10 pays de l'ASEAN ont le plan d'action national. Seulement l'Indonésie et la Thaïlande, seuls deux pays qui avaient le plan d'action national. Ne pas devenir un obstacle que seuls deux pays qui avaient le plan d'action national. Ravendi a expliqué, la plupart des sociétés et de l'investissement majeur intra- et inter-ASEAN est lié fortement au problème des droits de l'homme. Les lignes directrices peuvent être une référence pour les parties prenantes à l'élaboration du plan d'action national. Les directives devraient stimuler les pays de l'ASEAN à élaborer des plans d'action nationaux. En outre, les lignes directrices peuvent encourager la coopération entre les pays de l'ASEAN dans le domaine des droits de l'homme. En 2011, l'ONU a publié des directives sur les affaires et les droits de l'homme. Cependant, ces directives ne sont pas appliquées dans tous les pays car elles ne sont pas forcées ou volontaires. Le gouvernement de l'Indonésie, via le ministère des Affaires étrangères, Maksudi va demander aux pays membres de l'Organisation de la coopération islamique, OCI, à contribuer positivement à la création de la confiance entre les pays du Moyen-Orient. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Arman Atanasir, dans un communiqué de presse de Jeddah en Arabie Saoudite, a affirmé mercredi que le message du ministre Retno sera livré à la conférence ministérielle de l'OCI à Jeddah jeudi. Selon Armanata, le ministre Retno soulignera spécifiquement l'importance du rôle de l'OCI dans le développement des relations de l'Arabie Saoudite et de l'Iran et son influence sur la région du Moyen-Orient. En plus d'assister à la conférence ministérielle de l'OCI, Retno Marsoudi organise une réunion bilatérale avec le secrétaire général de l'OCI, Iyad Amin Madani, et plusieurs ministres des Affaires étrangères des pays de l'OCI, entre autres le Pakistan, la Palestine et le Bangladesh. Le gouverneur de Nusa Tenggara Orientale, Franz Lebu, a dit à Kupang que la frontière d'État est la question de la souveraineté de l'État, de sorte qu'elle ne peut pas être sous-estimée. Cela est lié au rapport que le pays voisin, le Timor Oriental, a annexé une partie de l'Indonésie dans la frontière de la résidence de Kupang et Oe Chusi. Le gouverneur demande au Timor-Leste de ne pas annexer l'Indonésie. Le gouverneur Franz Lebu a déclaré que les pourparlers pour résoudre le problème de la frontière des deux pays sera faite par le gouverneur central. Il espère la zone soupçonnée annexée située dans un segment qui n'est pas convenu, donc il y a encore des occasions d'être discutées. Timor-Leste doit respecter l'Indonésie et l'Indonésie doit respecter le Timor oriental. La valeur des exportations indonésiennes en Suisse en 2015 a atteint 1 milliard de dollars américains, a augmenté près de 1000% par rapport à 2014, qui est seulement 133 millions de dollars américains. Le directeur général du développement des exportations nationales du ministère du Commerce, Nus Nuzulia Isak, en marge du Forum économique mondial à Davos, en Suisse, a déclaré mercredi que le plus gros contributeur à la hausse des exportations provient de bijoux tels que l'or et l'argent qui atteint 7 065 dollars américains ou 67,8%. Selon lui, en général, la balance commerciale de l'Indonésie de janvier à octobre 2015 a un surplus jusqu'à 227% par rapport à la même période de l'année précédente. Les principaux produits d'importation en provenance de Suisse, entre autres les médicaments tels que les vaccins, les moteurs de turbines à gaz, de l'encre de machines à imprimer. Le plan de l'activité soirée indonésienne au milieu des activités du Forum économique mondial de Davos vise à introduire la richesse culturelle et les plats indonésiens aux participants du forum. L'épouse du roi de Belgique, la princesse Astrid, se rendra à Bandung du 12 au 19 mars 2016. Elle est venue avec 110 investisseurs de la Belgique. Selon le gouverneur de Java West, Ahmad Haryawan, il promouvera le potentiel économique de l'ouest de Java aux invités. Certains produits qui seront offerts sont le sucre de palme, râpé et le chip de banane. Le gouverneur Ahmad Haryawan à Bandung mercredi a dit que le volume d'exportation devrait être grand, ainsi l'industrie il sera développé en faisant devenir le secteur de la PME comme emplacement. Il a expliqué que la demande de chips de banane et le sucre de palme seront facilement répondues grâce aux nombreuses productions des gens de l'ouest de Java. Par ailleurs, le chef du bureau de représentants de la Banque d'Indonésie, ou BI, de la province de Java West, Rosmaya Hadi, a dit « Pour accueillir les représentants de la Belgique, il tiendrait le sommet de Java West pour promouvoir le produit à partir de l'ouest de Java. » En outre, il y a aussi une activité de nuit de culture qui a présenté la culture et les potentiels touristiques. L'ambassade d'Indonésie à Madrid, en collaboration avec le ministère du Tourisme de l'Indonésie et le gouvernement provincial de l'Ouest de Sumatra, a tenu un dîner en tant que le lancement de l'année de la promotion des investissements du tourisme d'Indonésie 2016 à l'hôtel Intercontinental Madrid, Espagne. L'événement était suivi par environ 150 personnes du milieu des investisseurs, de l'hôtelier, de l'industrie de tourisme, de tour opérateurs, des banques et des médias espagnols, et on a présenté la cuisine traditionnelle de Sumatra Ouest. C'est ce qu'a déclaré l'ambassade d'Indonésie à Madrid, qui a été reçue par Antara à Londres ce jeudi. L'événement a lieu en même temps avec les activités de promotion du tourisme international FITUR 2016 IFEMA à Madrid du 20 décembre au 24 janvier. L'ambassadeur d'Indonésie à Madrid, Yuli Mumpuni Widarso, a dit que la promotion de l'investissement touristique vise à soutenir la directive du développement de l'industrie touristique de l'Indonésie pour accueillir 20 millions de touristes étrangers qui visitent l'Indonésie comme ce qui est ciblé par le gouvernement indonésien. À cette occasion, l'ambassadeur a exprimé sa gratitude au gouvernement de l'Espagne et de l'ensemble de la communauté internationale et l'Organisation des Nations Unies qui ont soutenu les mesures du gouvernement à surmonter les attentats à la rue Tamrine la semaine dernière. La sympathie et le soutien sont la capitale pour le gouvernement indonésien à rétablir l'activité de l'industrie et du tourisme en organisant les activités de promotion des investissements du tourisme. Serviteur, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Chers amis, voici maintenant le commentaire intitulé « Le gouvernement indonésien devrait se concentrer sur l'accélération de l'absorption du budget ». À partir de 2015, le gouvernement indonésien s'efforce à optimiser le budget en demandant les autorités centrales et locales d'être en mesure d'absorber au maximum le budget. L'accélération de l'absorption du budget devient des programmes importants du gouvernement pour stimuler la croissance économique qui devrait atteindre 5,3% cette année. Il est également en conformité avec les directives du président Jokowi à tous les ministères et organismes en vue de prendre des mesures concrètes pour mettre en œuvre l'accélération des dépenses du gouvernement qui a commencé dès le début de l'exercice dans le but de stimuler la croissance économique nationale. La tasse des fonctionnaires d'État liée à l'absorption du budget est protégée par la loi numéro 30 en 2014 relative à l'administration du gouvernement. Même en août 2015, le gouvernement, via le procureur général, a formé une équipe pour garder la sécurité centrale et le gouvernement local. L'agence du contrôleur financier BPK était prête à contrôler l'accélération de l'absorption du budget cette année pour que le fonds dépensé au niveau central et local soit toujours sur la bonne voie. Le président du Conseil du contrôleur financier BPK, Hari Azhar Aziz, espère que le gouvernement au niveau central et local peuvent utiliser le budget en conformité avec les principes de respect. Le ralentissement de la croissance économique en 2015 s'est produit en raison de retard dans les dépenses du budget aux ministères et aux institutions d'État. Espérons que la déclaration de 2016, comme le début de l'accélération du budget, fait tous les ministères et organismes à absorber le plan budgétaire au maximal. Alors que le ralentissement économique qui est affecté par le retard de l'absorption en 2015 ne se produise plus. Chers auditeurs, c'était le commentaire.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditeurs. Nous nous rencontrons de nouveau dans notre programme L'Histoire d'aujourd'hui. Nous commençons par un événement le 21 janvier 1924. Vladimir Lénine est mort. Vladimir Ilitch Ulyanov est un révolutionnaire, théoricien politique et homme d'État russe. La prise de pouvoir par Lénine donne naissance à la Russie soviétique, premier régime communiste de l'histoire autour de laquelle se constitue ensuite l'URSS. Lénine et les bolcheviks parviennent à assurer la survie de leur régime malgré leur isolement international et en contexte de guerre civile. Ambitionnant d'étendre la révolution au reste du monde, Lénine vante en 1919 International communiste. Il provoque à l'échelle mondiale une scission de la famille politique socialiste et la naissance en tant que courant distant du mouvement communiste, ce qui contribue à faire de lui l'un des personnages les plus importants de l'histoire contemporaine. Lénine instaure en 1919 un système de camps de travail forcé qui précède le goulag de l'époque stalinienne. Il fait également du nouveau régime une dictature parti unique. La continuité politique entre Lénine et Staline fait l'objet de débats. Divers auteurs ont cependant souligné que la philosophie politique et la pratique du pouvoir de Lénine contenaient des éléments clés de la dictature au sens moderne du terme, voire du totalitarisme. Dès mars 1923, Lénine est définitivement écarté du jeu politique par la maladie. Lénine est mort à son domicile Gorky le 21 janvier 1924, étant tombé dans un coma plus tôt dans la journée. Sa cause officielle de décès est enregistrée comme une maladie incurable de faisceau sanguin. Notre information est sur Concorde a été volée pour la première fois. Le Concorde est un avion de ligne supersonique construit par l'association de sous-aviation, devenu par la suite aérospatiale, et de la British Aircraft Corporation, devenu ensuite British Aerospace. La vitesse de croisière du Concorde est de Mach 2,02 à une altitude variant de 16 000 à 18 000 mètres. Il est doté d'une aile delta spécifique dite jotique et de moteurs à post-combustion développés d'abord pour le bombardier britannique Avro Vulcan. Il est aussi le premier avion civil à être équipé de commandes de vol électrique analogique. Ce vol commercial qui était exploité par la compagnie aérienne britannique British Airways et Air France, compagnie aérienne française, ont été lancés le 21 janvier 1976 et se sont terminés avec le dernier vol le 26 novembre 2003. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement Borobudur a été bombardé le 21 janvier 1985. Le temple de Borobudur en Indonésie, Candi Borobudur, est une importante construction bouddhiste construite au 8e et 9e siècle à l'époque de la dynastie Shailendra dans le centre de l'île de Java en Indonésie. Lundi, le 21 janvier 1985, le temple de Borobudur a été bombardé par des terroristes. Cet événement de terrorisme est le deuxième événement motivé djihad à frapper l'Indonésie après le détournement de Garuda d'ici 9 Woyla par les membres du commando djihad en 1981. À cause de l'explosion assez dévastatrice, 9 stupas sont gravement endommagés par 9 bombes. Les autorités accusaient le cerveau des attentats dénommé Ibrahim alias Muhammad Jawad Krishna par les enquêteurs de la police que les bombardements est mentionné comme le cerveau de l'attentat. Cependant, Muhammad Jawad, le cerveau de l'attentat, n'a pas encore été trouvé et n'a pas encore été arrêté par la police indonésienne jusqu'à présent. Mais après l'enquête, la police indonésienne a arrêté deux suspects accusés comme auteurs de l'explosion. Serviteur, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Vous êtes toujours avec La Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter La Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la mise au point intitulée La concurrence dans la communauté économique de l'ASEAN doit être répondue positivement. La communauté économique de l'ASEAN en 2016 ne doit pas être sous-estimée. La concurrence est déjà commencée, donc l'Indonésie doit être en mesure de rivaliser avec les pays de l'ASEAN et aussi les pays de l'Union européenne. Cela a été déclaré par le président Joko Widodo. Dans le marché libre, le président avertit que la participation indonésienne dans tous les programmes de libre-échange dans différents blocs du monde doit être accompagnée par le bien calcul. Même le secteur des services financiers indonésiens doit être capable de rivaliser dans la région afin d'être mieux. Le président a donné un exemple. Les industries en Indonésie peuvent être mieux si on leur donne des concurrents comme les entreprises d'État, la Banque Rakyat Indonesia, qui font des profits à atteindre 24 trillions rupiah, et la Banque Mandiri, qui atteint un bénéfice de 19 trillions en 2014. Selon le président, le gouvernement va ouvrir la liste négative de l'investissement qui a été créée pour la protection. Mais il ne doit pas être utilisé pour détruire les petites et moyennes entreprises qui doit être calculé précisément. Concernant la réponse du président sur les services financiers, l'autorité des services financiers ou OJK encourage la mise en œuvre d'un programme de l'accélération d'accès financier régional qui peut créer de la croissance économique plus équitable, participative et inclusive. D'autre part, le ministre de l'Emploi, M. Hanif Dakiri, a déclaré que la communauté économique de l'ASEAN apportera des avantages pour l'Indonésie et devient un défi pour les pays concernés comme l'Indonésie. Selon le ministre Hanif, le grand capital indonésien pour faire face à la communauté économique de l'ASEAN est le sentiment d'optimisme et aussi l'augmentation de la compétitivité. L'augmentation de la compétitivité peut créer d'emplois et fera le marché indonésien en ASEAN sera plus grand. Selon le ministre Hanif, dans le secteur industriel, il est important de produire des productions en bonne qualité, bon marché et rapide. La même question a également été exprimée par le ministre de Commerce, M. Thomas Lembong. Il a demandé à la société de rester optimiste de faire face à la CEA, soutenu par divers règlements qui favorisent l'industrie nationale afin que l'Indonésie puisse concurrencer sur le marché libre de l'ASEAN. Actuellement, le déficit de la balance commerciale indonésienne améliore depuis le deuxième semestre 2015. Selon les membres de la commission 10 du Parlement, M. Anang Hermansyah, cela nécessite un réel règlement étant durable. Dans le produit créatif, il y a des œuvres intellectuelles, littéraires et artistiques. Basées sur le projet de loi de l'économie créative, le projet de loi sur la musique et la révision de la loi numéro 33 l'année 2009 sur le film est très pertinent comme une étape réelle afin de protéger et de contrôler l'économie créative, la musique et le cinéma. Anang souhaite que ces lois puissent être discutées et incluses dans le programme de la législation nationale prioritaire 2016 et peuvent être adoptées dans la loi. Il a demandé au président Joko Widodo d'engager à donner la protection et de soutenir les industries créatives en Indonésie en 2016. C'était la mise au point de La Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Et après, nous vous présentons le rappel des titres de l'actualité.
La question de la protection des droits de l'homme devient la mise au point dans les pratiques commerciales mondiales. Depuis la mise en œuvre de la Communauté économique de l'ASEAN, CEA, l'ASEAN doit formuler immédiatement des règles efficaces pour la protection des droits de l'homme liés aux affaires. C'est ce qu'a affirmé le représentant indonésien de la Commission intergouvernementale de l'ASEAN des droits de l'homme, CIADH, pour la période 2009-2015, Ravendi Jamin, dans le séminaire national sur les progrès de la réalisation des principes directeurs de l'ONU sur les affaires et les droits de l'homme en Indonésie. Ravendi a confirmé à Jakarta que cela devrait être fait parce que ce ne sont pas tous les pays membres de l'ASEAN ont un plan d'action national pour les affaires et les droits de l'homme.
L'ASEAN harus segera memformulasikan guideline bisnis dan HAM terkait dengan pelaksanaan MIE.
L'ASEAN doit formuler immédiatement des lignes directrices des affaires et des droits de l'homme liées à la mise en œuvre de la CEA ou la communauté économique de l'ASEAN. Parce que quoi? Liées à la circulation des biens et des services. Deuxièmement, l'absence de RAN ou plan d'action national dans l'État membre en Asie. Pas tous les 10 pays de l'ASEAN ont le plan d'action national. Seulement l'Indonésie et la Thaïlande, seuls deux pays qui avaient le plan d'action national. Ne pas devenir un obstacle que seuls deux pays qui avaient le plan d'action national. Ravendi a expliqué, la plupart des sociétés et de l'investissement majeur intra- et inter-ASEAN est lié fortement au problème des droits de l'homme. Les lignes directrices peuvent être une référence pour les parties prenantes à l'élaboration du plan d'action national. Les directives devraient stimuler les pays de l'ASEAN à élaborer des plans d'action nationaux. En outre, les lignes directrices peuvent encourager la coopération entre les pays de l'ASEAN dans le domaine des droits de l'homme. En 2011, l'ONU a publié des directives sur les affaires et les droits de l'homme. Cependant, ces directives ne sont pas appliquées dans tous les pays car elles ne sont pas forcées ou volontaires. Le gouvernement de l'Indonésie, via le ministère des Affaires étrangères, Retno Marsudi, va demander aux pays membres de l'Organisation de la coopération islamique, OCI, à contribuer positivement à la création de la confiance entre les pays du Moyen-Orient. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Arman Atanasir, dans un communiqué de presse de Jeddah en Arabie Saoudite, a affirmé mercredi que le message du ministre Retno sera livré à la conférence ministérielle de l'OCI à Jeddah jeudi. Selon Armanata, le ministre Retno soulignera spécifiquement l'importance du rôle de l'OCI dans le développement des relations de l'Arabie Saoudite et de l'Iran et son influence sur la région du Moyen-Orient. En plus d'assister à la conférence ministérielle de l'OCI, Retno Marsudi organise une réunion bilatérale avec le secrétaire général de l'OCI, Iyad Amin Madani, et plusieurs ministres des Affaires étrangères des pays de l'OCI, entre autres le Pakistan, la Palestine et le Bangladesh. Le gouverneur de Nusa Tenggara Orientale, Frans Lebu, a dit à Kupang que la frontière d'État est la question de la souveraineté de l'État, de sorte qu'elle ne peut pas être sous-estimée. Cela est lié au rapport que le pays voisin, le Timor Oriental, a annexé une partie de l'Indonésie dans la frontière de la résidence de Kupang et Oecusi. Le gouverneur demande au Timor-Leste de ne pas annexer l'Indonésie. Le gouverneur Frans Lebu a déclaré que les pourparlers pour résoudre le problème de la frontière des deux pays sera fait par le gouverneur central. Il espère la zone soupçonnée annexée située dans un segment qui n'est pas convenu, donc il y a encore des occasions d'être discutées. Timor-Leste doit respecter l'Indonésie et l'Indonésie doit respecter le Timor oriental. La valeur des exportations indonésiennes en Suisse en 2015 atteint 1 milliard de dollars américains, a augmenté près de 1000% par rapport à 2014, qui est seulement 133 millions de dollars américains. Le directeur général du développement des exportations nationales du ministère du Commerce, Nous Nuzulia Isaac, en marge du Forum économique mondial à Davos, en Suisse, a déclaré mercredi que le plus gros contributeur à la hausse des exportations provient des bijoux tels que l'or et l'argent qui atteint 7 065 dollars américains ou 67,8%. Selon lui, en général, la balance commerciale de l'Indonésie de janvier à octobre 2015 a un surplus jusqu'à 227% par rapport à la même période de l'année précédente. Les principaux produits d'importation en provenance de Suisse, entre autres les médicaments tels que les vaccins, les moteurs de turbines à gaz, de l'encre de machines à imprimer. Le plan de l'activité soirée indonésienne au milieu des activités du Forum économique mondial de Davos vise à introduire la richesse culturelle et les plats indonésiens aux participants du forum. L'épouse du roi de Belgique, la princesse Astrid, se rendra à Bandung du 12 au 19 mars 2016. Elle est venue avec 110 investisseurs de la Belgique. Selon le gouverneur de Java West, Ahmad Haryawan, il promouvera le potentiel économique de l'ouest de Java aux invités. Certains produits qui seront offerts sont le sucre de palme, râpé et le chip de banane. Le gouverneur Ahmad Haryawan à Bandung mercredi a dit que le volume d'exportation devrait être grand, ainsi l'industrie il sera développé en faisant devenir le secteur de la PME comme emplacement. Il a expliqué que la demande de chips de banane et le sucre de palme seront facilement répondues grâce aux nombreuses productions des gens de l'ouest de Java. Par ailleurs, le chef du bureau de représentants de la Banque d'Indonésie, ou BI, de la province de Java West, Rosmaya Hadi, a dit « Pour accueillir les représentants de la Belgique, il tiendrait le sommet de Java West pour promouvoir le produit à partir de l'ouest de Java. » En outre, il y a aussi une activité de nuit de culture qui a présenté la culture et les potentiels touristiques. L'ambassade d'Indonésie à Madrid, en collaboration avec le ministère du Tourisme de l'Indonésie et le gouvernement provincial de l'Ouest de Sumatra, a tenu un dîner en tant que lancement de l'année de la promotion des investissements du tourisme d'Indonésie 2016 à l'hôtel Intercontinental Madrid, Espagne. L'événement était suivi par environ 150 personnes du milieu des investisseurs, de l'hôtelier, de l'industrie de tourisme, de tour opérateur, des banques et des médias espagnols, et on a présenté la cuisine traditionnelle de Sumatra Ouest. C'est ce qu'a déclaré l'ambassade d'Indonésie à Madrid qui a été reçue par Antara à Londres ce jeudi. L'événement a lieu en même temps avec les activités de promotion du tourisme international FITUR 2016 IFEMA à Madrid du 20 décembre au 24 janvier. L'ambassadeur d'Indonésie à Madrid, Yuli Mumpuni Widarso, a dit que la promotion de l'investissement touristique vise à soutenir la directive du développement de l'industrie touristique de l'Indonésie pour accueillir 20 millions de touristes étrangers qui visitent l'Indonésie comme ce qui est ciblé par le gouvernement indonésien. À cette occasion, l'ambassadeur a exprimé sa gratitude au gouvernement de l'Espagne et de l'ensemble de la communauté internationale et l'Organisation des Nations Unies qui ont soutenu les mesures du gouvernement à surmonter les attentats à la rue Tamrin la semaine dernière. La sympathie et le soutien sont la capitale pour le gouvernement indonésien à rétablir l'activité de l'industrie et du tourisme en organisant les activités de promotion des investissements du tourisme. Serviteur, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Pour la rubrique suivante, écoutez la rubrique culturelle et l'Indonésie en couleur.
Écoutez. l'actualité, des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Chers auditeurs, on va écouter maintenant la rubrique culturelle. Aujourd'hui, nous vous invitons à voyager à Cirebon, Jawa West. La ville de Krewet, la ville de Wali ou la ville de Pantura sont très identiques avec la ville de Cirebon, qui est située sur la côte nord de Jawa, Pantura. Cela rend cette ville comme le canal de distribution économique et agricole. Cirebon est actuellement en croissance rapide pour devenir le centre d'affaires, de l'industrie et de services dans la région de l'ouest de Java. En outre, la ville est également connue comme la ville touristique qui offre une variété d'activités touristiques, soit le tourisme religieux, l'écotourisme et l'endroit pour faire du shopping. Voyager à Cirebon. Il y en a beaucoup de destinations touristiques intéressantes que vous pouvez visiter. Si vous aimez le tourisme pluvial, comme par exemple de tremper dans l'eau chaude, vous pouvez visiter le bain d'eau chaude naturelle Banyu Panas Palimanan. Le nom de Banyu Panas est d'origine de la langue Cirebon, ce qui signifie l'eau chaude. Ce lieu est d'environ 16 km du centre-ville de Cirebon, exactement à la rue Cirebon et Bandung, dans le hameau Palimanan West, le district Palimanan Cirebon, Jawa West. Du centre-ville de Cirebon, la distance n'est que 25 à 35 minutes. Pour entrer dans l'attraction touristique Banyu Panas, vous devez passer un poste de sécurité d'une usine de ciment, car ce site touristique se trouve dans le complexe de l'usine de ciment. Après avoir passé le poste de sécurité, 10 minutes plus tard, vous arriverez à l'entrée de Banyu Panas Palimanan. Pour entrer dans la zone de bain, vous devez d'abord passer par le pont sur lequel coule une petite rivière. Lors d'entrer dans cet endroit, vos yeux seront gâtés par le charme des deux couleurs naturelles dominantes, à savoir le vert des arbres et la rose des calcaires de la montagne Kromong. L'attraction touristique Banyu Panas Palimanan est en effet unique, car il a des sources d'eau qui se déplacent. En plus des sources d'eau uniques qui se déplacent, ce site touristique est cru pour guérir certaines maladies, car l'eau de cet étang contient du soufre de niveau élevé. Certaines maladies qui pourraient être guéries dans cet endroit sont la maladie de la peau et des blessures. À Banyu Panas Palimanan, vous pourrez tremper dans l'eau chaude en profitant de la beauté de la nature environnante. Le site touristique est construit sur le terrain de 4 hectares à une piscine mesurant 10 x 15 mètres avec une profondeur d'environ 1,5 mètres. Banyu Panas Palimanan dispose également des salles de bain complètes, une piste de jogging et un gazebo avec un beau dessin de jardin. Entrer dans ce site touristique n'est pas cher. Il suffit de payer le billet d'entrée de 4000 rupiah par personne et le prix supplémentaire pour ceux qui veulent tremper de 7000 rupiah par personne. Chers amis, c'était le magazine culturel pour aujourd'hui.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Bonsoir, chers auditeurs de la Voix de l'Indonésie dans le monde entier. Rencontrez de nouveau avec nous dans la rubrique L'Indonésie en couleur. Dans cette édition, nous vous invitons à savoir l'un des animaux rares en Papouasie, l'Indonésie, nommé des kangourous arboricoles. Comme pays d'archipel, l'Indonésie est en paix ayant de richesses abondantes. Non seulement la beauté naturelle que l'Indonésie possède, mais aussi dans les êtres vivants. Des animaux sont des êtres qui deviennent les résidents de forêts indonésiennes. Dans les forêts en Papouasie, un genre d'animaux nommé le kangourou vit en paix. Les kangourous de Papouasie sont différents de ceux qui vivent en Australie. Le kangourou de Papouasie survit au sommet de grands arbres qui sont trouvés dans les forêts de la Papouasie. Il ne saute pas comme le kangourou en Australie. La taille et la fourrure sont devenues les différences claires qui peuvent être vues. Le corps qui est couvert de couleur brune est une caractéristique de kangourou que nous trouvons habituellement en Australie. Bien qu'il ait un grand corps, mais les kangourous arboricoles ne sont pas grands. La fourrure est brune foncée. Le grand corps et graisse sont des caractéristiques de kangourous arboricoles. Comme son nom, les kangourous arboricoles vivent au-dessus de l'arbre. Ils dépendent en grande partie de leur vie sur des arbres. Il y a trois types de kangourous arboricoles qui peuvent être trouvés aux forêts tropicales en Papouasie. Le kangourou arboricole à mante dorée est une espèce de kangourou à poils fins courts de couleur brun doré à jaune, à la tête et les jambes. Par ailleurs, le kangourou de Goodfellow à courte fourrure noire avec une bande blanche sous le ventre. Le kangourou Goodfellow est un type de kangourou arboricole les plus fréquemment rencontrés. Ils sont nombreux dans la forêt tropicale sur l'île de Papouasie. Actuellement, le nombre de la forêt tropique qui diminue de moins en moins rend la réduction de la population de kangourous arboricoles. Parmi les trois types de kangourous arboricoles, la population actuelle des kangourous n'atteint que 5 kangourous. La sage cause également la réduction significative de la population de kangourous arboricoles. Les kangourous arboricoles sont inclus dans la liste des animaux rares qui sont protégés. La forêt tropicale dans les hautes terres de Papouasie est devenue l'habitat de ces animaux. Son existence devrait être protégée et conservée. Les gens devraient également être conscients que ces animaux rares ne devraient pas être sachés. La connaissance de l'existence de kangourous arboricoles devrait être mieux diffusée auprès du public, afin qu'ils puissent préserver. Nous espérons que le gouvernement et les gens de Papouasie peuvent continuer à préserver l'existence de l'habitat de kangourous arboricoles dans le futur, pour que la population puisse continuer à croître. Chers auditeurs, c'était les informations de kangourous d'origine de Papouasie qui sont menacés par l'extinction. Nous vous remercions de votre attention. À la prochaine édition.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Comme la fin de notre émission, nous vous présentons la rubrique de distraction.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis de la Voix d'Indonésie dans le monde entier. Merci d'écouter la Voix d'Indonésie. Voici le programme musical. Vous pouvez écouter nos émissions sur les fréquences de 9525 kHz ou en streaming de www.voc.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons une chanteuse senior, Titi Puspa. Bon serviteur, avant de connaître mieux Titi Puspa, voici sa chanson intitulée « Amour ». Bonne écoute.
Kau tuh, kau
serviteurs, vous venez d'écouter la chanson de Titi Pouspa intitulée Amour. Si vous voulez envoyer une lettre par courrier électronique à french@voui.ca.id, et nous vous invitons également à rejoindre La Voix Lunésie sur Facebook Voice of Indonesia ou à nous suivre sur Twitter @voiindonesia. Titi Pouspa a le nom d'origine Sudarwati. Elle a commencé sa carrière dans l'industrie musicale d'Indonésie depuis 1960. Devenir chanteuse était son rêve depuis l'enfance. Sa carrière comme chanteuse a commencé à Semarang, une ville où Titi Pouspa a participé à un concours de chant Bintang Radio à RRI Semarang. Outre de chanter, la grand-mère de Titi, on l'appelle maintenant, a montré sa totalité qui a tourné certaines opérettes aimées par les spectateurs de TVRI. Quelques opérettes en titre Les Chalotes et les Ketupat Lebaran et Ronche Ronche. Grâce à ces opérettes, son nom est connu dans l'industrie du film d'Indonésie. Bon, serviteur et auditrice, pour la chanson suivante, voici Titi Pouspa va chanter pour vous sa chanson intitulée Bimbi. Bonne écoute. Je vous rappelle que vous êtes toujours avec nous dans le programme Le Magazine Musical avec une chanteuse Titi Pouspa. L'année a changé et les goûts des amateurs de musique indonésienne ont changé également. Mais cela n'assombrit pas le nom de Titi Pouspa. Même Titi a ressorti une chanson en 1982 intitulée Apanya Dong ou Qu'est-ce que c'est donc? Son goût dans la musique qui peut suivre le changement du temps qui change est la clé de son succès dans sa carrière dans l'industrie musicale indonésienne. De plus, la chanson Apanya Dong a été tournée d'un film avec le même titre en 1983, réalisé par un réalisateur célèbre d'Indonésie, Nia Abbas Akub. Pour commémorer son 70e anniversaire, Titi a organisé un concert intitulé « L'œuvre intemporaire de légendaire, 70 ans de Titi Puspa ». Ce concert a eu lieu comme le remerciement de Titi Puspa à toutes les personnes qui sont impliquées et ont travaillé avec elle, surtout pour les spectateurs et les fans de Titi Puspa. Grâce à la dévotion de Titi Puspa étant extraordinaire à l'industrie musicale de l'Indonésie, son nom a été noté dans l'histoire de musique indonésienne comme l'un des chanteurs légendaires de l'Indonésie. Bon, chères auditrices et chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici les descriptions suivantes de Titi Puspa intitulées « Kupu-kupu malam ». Bonne écoute et au revoir.
Dirinya ada yang butuh dirinya, ada yang berlutut menyintanya, ada pula yang kejam menyiksa dirinya. Ini hidup wanita si kupu, kupu malam, bekerja bertaruh seluruh.
C'est la fin de notre émission. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence.
Radio République Indonésie, Service international, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, Service international, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésie, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta 1011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.